Bourgeoisie française avec Sophie Chauveau et Alice Fernet. Connectée, décontractée, décravatée, la nouvelle classe dominante des pays occidentaux s'est affranchie des carcans et des conventions dont la bourgeoisie avait peuplé son règne. Il y a toujours des nantis, mais il y a de moins en moins de bourgeois dans les open space de nos start-up nations. Rien de guindé, de corseté, de compassé chez les nouveaux maîtres de l'univers. À l'image de Mark Zuckerberg, de Mathieu Pigas ou de Xavier Niel, ils ne sont pas rigides, ils sont relax. Et nous sommes en marche, sous leur direction, vers un nouveau monde, toujours moins contraint, toujours plus fluide, toujours moins formel, toujours plus cool. Il ne nous appartient pas de revenir sur nos pas. Mais nous avons le droit et peut-être le devoir de regarder derrière nous pour comprendre, quand il en est encore temps, ce que fut l'ancien. Deux livres, deux beaux romans nous en donnent l'occasion. Les bourgeois d'Alice Fernet, que publie cet automne les éditions Actes Sud, et Les noces de charbon de Sophie Chauveau, paru en 2013 chez Gallimard et disponible aujourd'hui dans la collection Folio. Faisons les présentations pour commencer. Qui sont les bourgeois, Alice Fernet?
Alors, les bourgeois auxquels je m'intéresse, il faut prévenir peut-être l'auditeur qu'il s'appelle aussi bourgeois. J'ai choisi ce patronyme il y a 22 ans lorsque j'ai commencé à écrire la vie de cette famille et qu'il m'est apparu qu'ils n'étaient ni des aristocrates, ni des ouvriers, ni des prolétaires et que le nom était bien choisi pour les baptiser. Donc, ils s'appellent bourgeois. Ils sont nés pour la famille, la fratrie qui m'intéresse, ils sont nés entre 1920 et 1940. Leurs parents étaient nés à la fin du 19e siècle, en 1895. C'est déjà cette date qui m'intéressait. Mais pour ce qui est de leur caractère bourgeois, c'est donc une famille nombreuse qui comporte 8 garçons et 2 filles, qui naît et vit à Paris, dans les quartiers aisés, en l'occurrence le 16e arrondissement. Leurs parents sont vraiment des bourgeois au sens où ils sont des propriétaires, sédentaires, qui ont des maisons de famille, mais néanmoins très éduqués. Le père est éditeur et la mère est femme au foyer.
Éditeur et promoteur immobilier, je crois.
Alors, le père est un personnage intéressant parce qu'effectivement, il est éditeur, ce qui est un métier, je trouve, spécifique et voilà, qui fait de lui quand même quelqu'un qui se commet dans le monde intellectuel, mais en même temps il a un grand sens des affaires et donc effectivement il sait s'allier parfois avec des architectes et participer à l'évolution de Paris et à la construction immobilière.
Oui, alors, et quelle est la caractéristique principale justement de cette famille et de la bourgeoisie qu'elle représente?
Moi, je répondrais que c'est le catholicisme qui marque absolument tout le mode de vie de cette famille et qui rend d'ailleurs leur vie à la fois intéressante et plus compliquée puisque le catholicisme a quand même un rapport à l'aisance matérielle qui peut-être d'ailleurs a permis à l'Église de se soumettre une partie de la classe aisée. Être riche, bon voilà, il est plus difficile à un riche de rentrer au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Il y a quand même cette dimension qui s'inscrit dans leur vie et qui fait qu'ils ne sont pas, par exemple, des gens cupides ou avides.
Oui, la dimension du catholicisme. Et puis, il y a aussi un trait distinctif dont vous parlez tout au long de ce livre, qui n'est pas chronologique, mais kaléidoscopique. Vous prenez différentes dates du XXe siècle que vous racontez à travers l'histoire de cette famille nombreuse sur laquelle nous reviendrons. Mais un mot est une sorte de leitmotiv, c'est le mot « tenu ». Vous dites leur éducation leur est appris à se tenir, c'est-à-dire à se retenir, de la tenue. Voilà à quoi avaient été éduqués les bourgeois. La tenue exigeait discrétion et silence.
C'est une marque, oui. Mais alors en même temps, je me suis beaucoup demandé si c'était pas plus une marque de cette époque que de ce milieu. Parce que quand Camus, par exemple, qui était né en 1913, dit « un homme, ça s'empêche », c'est du même ordre. Et il n'est pas d'un milieu bourgeois. Mais en effet, ils ont cette manière de se tenir, qui est une manière que je trouve à la fois admirable et très coûteuse, au sens où la parole n'a pas du tout un statut d'expression et donc de baume. On ne se console jamais en parlant.
Je donne une autre citation. « Se livrer est vulgaire, le mot inconvenant était maître. » Là, on est plutôt dans la bourgeoisie, effectivement, dans ce qu'elle a de spécifique, même si le père de Camus avait en effet cette devise qui a tant inspiré son fils. Son fils ne l'a pas connu, mais il a passé sa vie à méditer « Un homme, ça s'empêche ». Mais le mot inconvenant était maître. On ne raconte pas sa vie, on ne déballe pas ses états d'âme, on ne pleure pas en public, on ne se donne pas en spectacle. Tout cela, en effet, est proprement inconvenant. Henri est mort au moment du basculement vers l'extériorisation de soi. Henri, c'est
le père
des 10 enfants. Et ce moment, c'est 68, puisqu'il est mort, je crois, en janvier 68. Bon, maintenant, je me tourne vers vous, Sophie Chauveau. On fait les présentations. Vous avez écrit « Noces de charbon ». C'est pas simplement l'histoire du siècle à travers une famille bourgeoise, mais à travers deux familles, deux côtés. Le côté Simenon, dites-vous, et le côté Proust. Alors, dites-nous en davantage, Sophie Chauveau.
Alors, je n'ai jamais eu l'intention d'écrire sur ma famille, a priori, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que le romanesque venait du fait que j'étais un pur produit de la lutte des classes, avec un arrière-grand-père directeur des Houillères du Nord, et un arrière-grand-père mort de la silicose au fond de ces mêmes mines. Et tout d'un coup, ayant vécu dans les années 60, petite fille, le basculement des familles, la mort du charbon, donc les bourgeois qui deviennent pauvres, et les mineurs, et vraiment ceux qui se sont enfuis des corons, un peu poussés par les Allemands, un peu poussés par les guerres et la misère, sont devenus plus aisés en quittant le charbon. Donc j'avais aussi dans mon ambition l'envie de rendre hommage au charbon qui a fabriqué le 19e siècle. L'industrialisation de la France, c'est le charbon, cette énergie dont on peut dire le plus grand mal aujourd'hui, mais en même temps, elle a fabriqué ces gens. Et quand vous parlez de tenue, je pense qu'effectivement, Alice a raison. La tenue, elle est aussi des prolétaires. Ils se tiennent à ce moment-là de l'histoire. Donc, c'est une époque.
Oui, c'est vrai.
Me semble-t-il.
Mais le livre, si j'ose dire, commence très fort. Et on se dit, quand on lit les premières pages, ça va être du germinal.
Oui, c'est ce que je voulais pas faire.
C'est ce que, oui, mais justement, c'est-à-dire, on se dit, c'est le 19e siècle dans ce nord s'éternise, le patronat marche la main dans la main avec l'église afin de mieux enchaîner ses esclaves. Vous n'y allez pas de main morte. Et puis, surgit, justement, l'un de vos aïeux, votre grand-père, je crois, Hippolyte.
Arrière-grand-père.
Hippolyte fait partie, donc, de la, du patronat. Il est directeur des Houillères du Pas-de-Calais.
Du Nord et du Pas-de-Calais, ça s'appelle comme ça. Ouais.
Voilà. Mais cet homme, justement, n'est pas du tout le capitaliste qu'on aurait pu attendre. Cruel, ne pensant qu'à son intérêt. Au contraire, il y a quelque chose en lui de généreux. Et puis, aussi, un attrait pour la culture.
Oui.
La culture est son obsession. Oui. Donc, avec lui, on n'est plus du tout dans Germinal, et c'est une image de la bourgeoisie assez inattendue, parce que, disons, très humaine. Il incarne le versant humain de la bourgeoisie et peut-être du capitalisme, mais je vais peut-être trop loin en disant ça.
Oui, parce qu'il n'est pas propriétaire. Alors, voilà. Il est un employé au grade, puisqu'il est le patron, le directeur des mines, mais c'est pas le grossium, comme disent les gens de l'époque, le grossium qui est le propriétaire, qui vient pas à la mine d'ailleurs. Lui, il fait travailler les gens, donc il connaît leur mode de travail. Il va au fond de la mine. Alors, il y a une classe intermédiaire qu'on appellerait aujourd'hui des contremaîtres, qui s'appelle les porions. Il va d'ailleurs en adopter un.
Voilà.
Parce que son père est malheureux, parce que sa femme est folle, parce que voilà, c'est des, eux, c'est, ça aurait pu être des bourgeois au sens de la bourgeoisie telle qu'on la connaît, puisque ce sont des gens qui sont vraiment haussés de classe et qui sont devenus riches. Ce qui est intéressant, lui, il est né riche, mais il a fait des études, mais il a fait centrale, mais il a fait, voilà, tout ce qui existait comme études à l'époque pour faire les mines. Et il a le traumatisme d'une catastrophe minière, avec les les gens qui meurent en muret, qu'on va pas sauver parce que les grossiums n'y ont pas intérêt. Et donc, à partir de ce moment-là, lui va développer quelque chose qui est un pré-syndicat. Et où il va effectivement libérer le travail le dimanche, libérer le travail des enfants, faire remonter les femmes qui sont au fond de la mine pour qu'elles ne travaillent plus au fond de la mine. Il fait pas ça tout seul, bien sûr. Moi, il se trouve que c'est mon arrière-grand-père, alors je lui en attribue un paquet. C'est plus agréable romanesquement. Mais bien sûr, ils sont nombreux à ce moment-là à faire ça. Mais c'est effectivement les mines de Bruay-en-Artois, de Béthune et ces mines-là qui vont être novatrice, puisque on dit à l'époque que le mineur est l'aristocrate des prolétaires, puisqu'il a des droits sociaux que longtemps ils n'auront pas.
Oui, et en effet, il a été traumatisé par l'horreur de Courrières, où dites-vous, le 10 mars 1906, à 6h45, 1219 mineurs, sur les 1800 descendus le matin, sans compter les chevaux, furent tués ou blessés dans des fosses transformées en brasiers. C'est une sorte d'événement fondateur pour lui, il ne fallait pas que ça se reproduise. Donc, il a en effet engagé comme contremaître un chef porion, dont Émile est le fils, et Émile va épouser...
Il va d'abord l'adopter, lui faire faire de très bonnes études, et ma grand-mère va faire un caprice et elle va le vouloir.
Elle va le vouloir et elle va l'épouser. C'est donc d'ailleurs leur premier contact, en fait, entre le côté Proust
et
le côté Simenon. Mais il y a aussi cet autre aspect, c'est-à-dire que les parents d'Hippolyte étaient eux-mêmes fort brillants, considèrent le savoir et l'étude au-delà de tout, et Hippolyte n'a qu'une ambition, amener ses enfants à la lecture, à leur faire aimer la musique. Il tente de leur transmettre cette grande culture qui lui est source de joie. Et à cet égard, il est très différent de son épouse, Henriette.
Qui, à cause de quoi, il va rater, et que tous ses 6 enfants vont pas être instruits, bien sûr, ils vont l'être, mais ils vont pas être des amateurs, des avides de culture comme lui. C'est juste le fils du porion qu'il adopte qui va le devenir.
Oui, c'est ça.
Mais ce qui est amusant, c'est que d'abord, je trouve que le mot bourgeois s'étant tellement chargé négativement, et la haine du bourgeois étant en France un sentiment très violent, on oublie quand même que les bourgeois ont fait la révolution.
Bien
sûr. Et qu'effectivement, les premiers progrès sociaux ont été initiés par des bourgeois éclairés qui étaient assez proches des travailleurs pour avoir le désir d'améliorer leurs conditions.
Même et par si ailleurs, ça les arrangeait.
Ce qui m'amuse aussi, c'est cette question de votre personnage Henriette, la femme d'Hippolyte, qui effectivement n'aura pas cette espèce de désir de faire finalement de déployer ses enfants. Elle est finalement l'archétype d'une forme d'épouse qui a finalement conduit quand même la société bourgeoise à se dire qu'il faudrait bel et bien éduquer aussi les filles, puisque devenant mère, elles allaient elles-mêmes avoir à éduquer des fils.
Mais quel était le rapport justement des bourgeois, la famille des bourgeois, à la culture ? Je sais que l'un d'entre eux, Jérôme, si je ne me trompe pas, devenu médecin, non pas médecin du monde, mais médecin de son monde, c'était un vrai provincial, eh bien, il allait à ses consultations en écoutant ou en récitant Peggy.
Oui, c'est très beau. Mais pour moi, cette famille, justement, c'est une famille où les femmes étaient intelligentes. Mmh. Et ça change tout, en fait, je crois. Parce qu'effectivement, ce sont des femmes qui donnaient des livres à lire, qui emmenaient leurs enfants au spectacle, qui allaient au théâtre. Donc, pour le coup, là, des bourgeoises de deuxième ou troisième génération qui donc... Parce que je pense qu'il y a aussi, c'est une des choses qui m'a frappée en lisant votre livre, c'est... Moi, je parle de bourgeois qui sont déjà vraiment installés dans la bourgeoisie, et même économiquement, c'est-à-dire qu'ils ont un patrimoine, hein, on pourrait le dire comme ça, ils sont propriétaires, voilà, exactement. On pourrait dire, parce que je pense que le mot bourgeoisie est insuffisant, il y a vraiment la haute, la moyenne et la petite bourgeoisie, de même qu'on pourrait distinguer la bourgeoisie d'affaires de la bourgeoisie intellectuelle. Donc c'est la différence entre nous. Voilà, les miens sont déjà suffisamment installés pour que la culture soit très présente dans leur existence.
Et les miens vont se paupériser au point qu'ils vont s'en sortir que par la culture. Ce qui est assez amusant, puisque ma tante va devenir la plus jeune avocate de France, donc très brillante, en ayant une admiration folle pour Émile, son père, qui a fait centrale l'école des mines, alors qu'il venait du fond de la mine, si je puis dire, et qui a été un patron important, enfin bon, de son point de vue, à elle, mais par la culture. Et donc, elle s'est sauvée par la culture de cette ruine qu'a été la mort du charbon.
Oui, alors, j'en viens aussi... Je fais écho à ce que vous disiez, Alice Fernet, la très mauvaise réputation de la bourgeoisie. Et cette très mauvaise réputation ne date pas d'hier. Elle accompagne l'essor de la bourgeoisie dès l'origine. Mmh. Dans son journal, Gide cite à un moment donné Flaubert. « J'appelle bourgeois tout ce qui pense bassement. » Et Gide commente... Ce qui caractérise le bourgeois, c'est la haine du gratuit, du désintéressé, de tout ce dont il ne peut pas se servir. Il ne saurait admettre la littérature qu'utilitaire et est tout ce qu'il ne peut s'élever à comprendre. Puis il y a les temps difficiles de Dickens, ce personnage de Gad Green, qui est un homme de fait et de calcul, mais... c'est une injustice.
Je voudrais juste dire que vous venez de citer Dickens et Gide, qui décrit les bourgeois protestants. La différence avec Alice et avec moi, c'est que c'est des bourgeois catholiques et que le regard n'est pas le même sur l'argent. Je crois vraiment.
Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, vous avez tout à raison, on va approfondir cette différence tout de suite, mais en 1976 paraît le livre de Bourdieu, La Distinction. Oui. Et ce livre est très intéressant parce que c'est une charge violente contre la bourgeoisie. Mais... qui va dans un tout autre sens, parce qu'il dit « La bourgeoisie a besoin de titres et de quartiers de noblesse, elle va les chercher dans la culture, par la culture, elle se distingue d'un peuple trivial et vulgaire, donc il concède, à travers même son attaque, un lien consubstantiel entre la culture et la bourgeoisie, ce qui, disons, donne de la bourgeoisie une toute autre image que celle qu'en donne Gide, après Flaubert, donc c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait vrai, mais revenons-en cette
Flaubert
accusation.
Flaubert est ambigu parce qu'il dit aussi il faut vivre en bourgeois et penser en demi-dieu, lui-même vivait en bourgeois, avait une pensée terriblement bourgeoise, en tout cas dans sa vie, puisque pour marier sa nièce, c'était toute une affaire, la ruine qui l'a guetté l'a rendu malade, donc je trouve qu'il y a toujours une sorte d'ambivalence, en tout cas chez Flaubert, une ambivalence, et Flaubert, je trouve, définit le personnage du petit bourgeois, parce que vraiment, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, voilà, et en plus, en effet, je crois qu'il y a une grande différence entre provincial et parisien.
Oui, mais alors, revenons-en à cette question, ce sont des bourgeois catholiques, vous dites vous-même, c'était la définition de votre famille, et en même temps, c'était pas n'importe quel catholique. Henri et Mathilde, ceux qui ont eu les 10 enfants, qui sont les véritables héros de votre livre, Alice Fernet, sont Action française. Hein, ils sont Action française. Henri ne reçoit pas de divorcé, je crois. Il vous voit sa femme. Donc c'est un catholicisme, disons, très engagé et très extrémiste qui aurait pu mener cette famille, au fond, au pire. Or, cette famille, malgré cet engagement initial, au fond, ne vous a jamais fait honte.
Alors je pense déjà, ce qui m'intéresse, c'est, et ça m'a fait beaucoup penser en écrivant le livre, à la manière dont est déterminante dans notre cadre, dans la définition de notre cadre de pensée, de la date à laquelle on est. Effectivement, les parents de cette famille, qui naissent l'un en 1895 et l'autre en 1897, ne sont pas républicains, par exemple. Henri est royaliste. Et on comprend bien, d'ailleurs, en quoi c'est extrêmement lié à leur catholicisme. C'est-à-dire, la Révolution française est quand même... Je trouve qu'il y a eu deux étapes dans la laïcisation du pays. La Révolution, qui crée une constitution dans laquelle il n'est pas du tout fait mention d'une quelconque sphère spirituelle. On est vraiment dans la sphère temporelle. Et c'est même pas une question envisagée. Donc ça, c'est très violent pour des gens qui sont profondément catholiques. Et puis ensuite, il y aura la loi de séparation qui est un traumatisme dans cette famille. C'est-à-dire que... On en a oublié la violence.
Pour écrire mon livre, j'ai récupéré un numéro de l'Illustration de 1905 où j'ai vu qu'on se battait dans les églises, qu'on se battait dans les rues à propos de cette loi de 1905. Ce que j'ignorais absolument.
Ça a été une violence terrible. On allait évacuer des classes.
On nous a pas appris à quel point c'était une espèce de mini-guerre civile. ville, à cet endroit-là.
Exactement.
Moi, je ne savais pas.
Et donc, cette famille, effectivement, a été porte, la marque de ces événements, de ces ruptures et de la création, finalement, d'une république laïque.
Oui, et marque de cette rupture, donc Henri est Action française. Il consent à cesser de lire l'Action française
parce qu'il
obéit au pape. Mais enfin, il y a eu cet événement dont, très important dans vos deux livres, enfin bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale, Vichy, la participation de Vichy à la solution finale, et finalement, votre famille, au départ, vichysoise malgré tout.
Le père,
en tout cas, et les autres, et les enfants qui sont en âge de comprendre et d'agir, pensent que peut-être Pétain est le bouclier qu'il prétend être, mais cette famille ne bascule jamais du mauvais côté.
Non, c'est vrai. C'est-à-dire que, bon, je pense, ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, le père, donc, qui effectivement est Action française, mais ensuite comprend que instrumentaliser Dieu pour faire de la politique, non, et qu'en effet, on va laisser tomber l'Action française, est un ancien soldat de Verdun, donc quelqu'un qui gardera toujours son admiration au vainqueur de Verdun. Le vainqueur de Verdun n'étant, finalement, on peut considérer, Henri Amouroux, je crois, le dit très bien, qu'il y a plusieurs Pétains. Et donc, en effet, il gardera toujours sa fidélité au Pétain général à Verdun. Ensuite, il ne passera jamais dans aucun activisme et soutien même révélé à Vichy. Et ses enfants qui sont nés entre 20 et 40, et pour ceux qui sont l'un à Saint-Cyr, l'autre à Naval, il est évident que l'intégration de la France dans un bloc germanique, c'est quelque chose d'absolument inconcevable. Donc, ils vont assez rapidement rallier la résistance. Néanmoins, il y aura cette espèce d'image, cette aura de Pétain qui jamais ne tombera dans l'esprit des anciens combattants. Et je pense que Henri est un ancien combattant. Comme justement, par exemple, Berle le dit, toute ma vie, je suis resté un ancien de 14. Ça existe réellement. Et aujourd'hui, on devrait effectivement bien faire la distinction entre plusieurs Pétains.
Et comment votre famille a-t-elle été affectée, Sophie Chauveau?
Alors ça devient très compliqué parce que je vais laisser les Simenon de côté parce que c'est une autre façon d'être envahi par les Allemands puisque les Allemands occupent tout de suite les mines du Nord, donc ils sont obligés de s'enfuir et de s'enfuir loin. Il y en a une qui va inventer un nouveau métier à Grenoble. Donc c'est vraiment, et c'est là aussi une famille de 11 enfants, dont 9 filles, qui ne font pas d'enfants justement. Donc là aussi c'est la rupture entre ceux qui faisaient 15 enfants, 20 enfants parce qu'il y avait beaucoup de morts, ce qu'on oublie. Là on est à l'étiage démographique, donc on fait beaucoup d'enfants et ils ne meurent plus. Donc la génération d'après, on ne fait plus d'enfants. Ce qui est intéressant, enfin très peu en tout cas. Dans la famille, donc, côté Proust, il y a un grand-père dont moi, petite fille, dans la maison où j'ai grandi, il y avait toujours le cagibi avec le grand rideau qui le cachait pour écouter Radio Londres. Donc je ne savais pas pourquoi il y avait un grand rideau devant un cagibi, enfin c'était très mystérieux. Et ceux-là vont être non seulement un peu résistants, ils vont plutôt bien se tenir. J'ai un grand-père assez drôle, puis c'est un joueur, il est dans tous les casinos, donc il rencontre les nazis et les clubs de jeux clandestins. Il rencontre à la fois des nazis, des dignitaires qui gagnent de l'argent, et des gens qui sont des interlopes, qui sont parfois des résistants, qui sont parfois juste un peu délinquants. Et il y a l'amant de ma grand-mère, alors celui-là c'est une autre histoire, puisque c'est le juif dans une famille plutôt antisémite, parce que catholique et plutôt bien pensante, que ça se fait pas, qu'on va même cacher à la cave, et qui va lui cacher des gens qu'il va faire passer en zone libre. Donc il y a tout ce mélange pendant la guerre où tous ces gens cohabitent en le sachant.
Oui, d'ailleurs, et votre grand-mère a eu un enfant.
Ma mère.
C'est votre mère. Donc vous êtes vous-même.
C'est la fille du juif, mais ça n'a jamais été reconnu parce que ma mère en avait honte. Parce qu'elle-même était la fille de la bourgeoisie.
Vous êtes la petite fille du juif. Et alors, il y a quand même aussi une différence fondamentale entre les deux livres qui concerne les femmes. Votre grand-mère
travaille.
Micheline. Travaille.
L'autre aussi. Les
grand-mères travaillent. Et alors, cette Micheline, elle est extraordinaire.
Elle m'a élevée,
elle prend en main, justement, le destin des Houillères, alors que son propre père avait été ruiné par l'amant de sa femme, qu'il avait complètement spolié et qui, une fois fortune faite, s'était enfui de la maison.
Il était aveugle, mon arrière-grand-père, celui qui aimait les livres. Et la seule chose que j'ai appris de lui, puisqu'il est mort avant ma naissance, c'est que ne pouvant plus lire, il continuait par caresser les livres. Ce que je trouve un geste absolument somptueux, il caressait les livres avant de mourir.
Et donc, cette femme prend son destin en main, et elle le fait, au début en tout cas, avec une réussite exceptionnelle.
Exceptionnelle. Elle devient, grâce à son père qui l'a dûment dotée quand même, la représentante de ce qu'on appelait les bois et charbons, en vérité, la grossiste de tous les bois et charbons de Paris et sa banlieue. Donc, à partir de 6h30 le matin, elle part, maquillée, comme un camion volé, pour aller démarcher les bougnats un par un pour leur vendre qui une tonne d'anthracite, qui du boulet, qui de la houe. Enfin bon, le charbon qu'elle fait venir par péniche d'abord du Nord, et puis après la mort du charbon de Pologne, enfin la mort du charbon française, après la CECA, qui se négocie chez elle, parce que c'est une grande dame du charbon. Quand j'étais petite, je croyais qu'elle était reine, parce que sur les photos des congrès des houillères du charbonnage, elle était en vison blanc, seule femme au milieu d'une rangée d'hommes habillés tous pareils.
Mais elle donne beaucoup de liberté à votre livre, en fait.
C'est je et Angèle une des aussi, la cocotte.
Oui, c'est
hein.
Angèle,
j'en ai
voilà.
deux comme ça.
Oui, mais justement, alors, maintenant, Alice Fernet, les femmes sont très présentes dans votre livre. Courageusement, vous leur rendez hommage et vous payez cher ce courage auprès d'une certaine presse qui ne veut absolument pas parler de votre livre, puisque ce sont des femmes au foyer. Aucune n'a appris à faire cavalier seul. Et vous dites que finalement, ils représentent Henri et Mathilde, mais c'est vrai aussi pour leurs descendants. Ils représentent avec ferveur ce qui est honni aujourd'hui par ceux qui craignent qu'on en refasse un idéal et le retour de l'ordre moral, la famille nombreuse, hétérosexuelle et catholique. Et ces femmes, pendant leur jeunesse, elles ont connu les interdits. Lorsqu'elles deviennent des épouses, elles subissent toute une série d'obligations et ce sont en quelque sorte des anges du foyer. Elles ne quittent pas le foyer. Ce n'est pas la vie, très vraisemblablement, que vous avez choisie, mais c'est une vie dont vous montrez qu'elle avait quelque chose de très digne. Il y avait en elle une certaine beauté.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, effectivement, d'abord, moi, j'ai pas été élevée comme ça du tout. Et j'ai été élevée, au contraire, par une mère qui m'a toujours dit, il faut travailler pour gagner sa vie et être, ne pas dépendre de son mari. Ce qui était un cadeau, mais en même temps, c'était d'actualité puisque je suis née en 61. Mais je suis capable, effectivement, revenant sur ces modes de vie, ce qu'on a appelé la division du travail, la famille conjugale, et qui n'était pas tellement quelque chose, ça n'était pas choisi, c'était imposé. Et quand on regarde les statistiques sur le travail des femmes, votre grand-mère Micheline, c'est un cas.
C'est une exception.
C'est une exception. Et donc revenant sur cette époque où les femmes n'avaient pas tellement le choix de travailler, et où effectivement, en plus, dans les milieux bourgeois, c'était certainement mal vu parce que ça se vivait comme un signal que l'époux ne pouvait pas...
Ou qu'elles allaient s'émanciper et donc les quitter.
Oui, alors il y a ça, mais c'est, je trouve que c'est un phénomène qui est extrêmement complexe, parce que d'une certaine façon, si on peut réfléchir, Keynes a dit le XXe siècle, c'est le siècle de la fin des rentiers, mais enfin on a bien vu avec quelles difficultés les aristocrates se sont mis au travail, parce que c'était honteux d'avoir à gagner sa vie. Bon, les bourgeois, eux, avaient au contraire fait du travail une valeur, mais l'aristocratie qu'ils voulaient conserver, ils la conservaient à travers le fait que leurs femmes n'étaient pas obligées de travailler. C'était aussi une autre manière de se distinguer du peuple.
Et vous dites donc, Mathilde a 10 enfants, elle meurt en couche au moment où la dixième, enfant naît, mais pourtant vous dites, je ne m'interdis pas d'imaginer Mathilde heureuse, et vous déclenchez l'expérience mentale, qui est l'expérience littéraire même. Imaginer, c'est pas seulement inventer, c'est se mettre à la place. Vous déclenchez l'expérience mentale par laquelle ce que Mathilde a vécu, je le vivrai. Alors que vous vivez tout autre chose.
Oui, c'est-à-dire, d'une part, il se trouve que dans le cadre de la théorie économique, j'ai travaillé pendant presque 15 ans sur ce sujet du travail des femmes, essayé de l'analyser avec les modèles économiques et d'expliquer en théorie comment on était passé d'un modèle où les femmes sont à la maison à un modèle où les femmes sont comme les hommes sur le marché du travail. Et il faut bien voir que, alors là, pour le coup, c'est vraiment les infrastructures déterminent les superstructures. C'est-à-dire que l'espace socio-économique de cette époque permet difficilement à une mère de 10 enfants de travailler. On oublie complètement, c'est vraiment l'apparition du progrès technique qui pénètre
mais
dans les maisons.
Mais bonheur là-dedans, parce que d'un autre côté, vous dites pauvre femme parfaite, il fallait écouter l'époux comme un oracle et jamais ne se piquer de rien. Donc il y a une part de renoncement tout de même dans ce dévouement.
Oui, c'est évident.
Mais où est le bonheur?
Eh ben, je pense que tout le monde le cherche. Et donc, quand je dis je ne m'interdis pas d'imaginer Mathilde heureuse, c'est dans le cadre de la contrainte que, de toute évidence, ont subi les femmes. D'une part, contrainte matérielle, puisqu'effectivement, il n'y a pas de machine à linge. Je décris la cuisine en 1940. C'est un espace qui nous est parfaitement inconnu. Voilà, on est passé dans un autre temps. Et donc, il y a une contrainte matérielle. Et puis, effectivement, il y a en plus là un milieu social, une société patriarcale, éminemment patriarcale. Mais en même temps, je me dis, il y avait dans tout ça une forme de naturel. C'était pas encore la brimade aujourd'hui.
Non, il y avait
on imposerait
une place.
Ça. Et donc, je les imagine capables, oui, de trouver un bonheur. Et ne serait-ce que dans le fait que, je le dis dans un autre passage, que faire 10 enfants, c'est aussi une œuvre.
Aussi une œuvre.
Ça me renvoie beaucoup, vous savez, je pensais à ça en écrivant le passage de faire 10 enfants, c'est faire son œuvre, c'est faire une forme d'œuvre. Je pensais à la vision qu'avait Michel Foucault à la fin de sa vie de faire de sa vie une œuvre d'art. Pour moi, ça se rejoint. C'est faire une œuvre de chair.
Oui, dans une forme de sainteté.
Sophie Chauve.
Quand même.
Une forme de sainteté. Alors, ce qui m'a aussi frappé dans votre livre, Sophie Chauveau, vous êtes à la fin. Vous n'êtes pas tout à fait, pas vraiment tendre avec la bourgeoisie, parce que vous dites que en 68, nous y reviendrons, vous avez pris votre envol, vous avez cessé en réalité d'appartenir à cette classe ou de vouloir perpétuer le mode d'être et d'habiter le monde de cette classe. Mais ce qui me frappe, c'est justement le contraste qu'il peut y avoir entre justement, Hippolyte, votre arrière-grand-père, amoureux de la culture et des livres, qui les caresse une fois aveugle, qui est quand même une sorte de bienfaiteur aussi, vous l'avez dit, tellement elle a été traumatisée par la catastrophe de Courrières, et son fils, Max, une sorte de bon à rien, ça peut arriver dans toutes les familles, mais c'est là où c'est très intéressant, il déteste la bourgeoisie. Il déteste la bourgeoisie et il choisit la bohème et l'avant-garde. Et donc, il y a quand même là une sorte de critique implicite à travers ce personnage, justement, des postures anti-bourgeoises qui, en France, ont longtemps prospéré.
On peut dire que Max les a incarnés à sa façon.
Sophie
quand il est venu à Paris. Il est devenu journaliste, après avoir fait les 24 heures du Mans, avoir ruiné tout le monde avec ses voitures. Il est devenu journaliste, il a créé Art et Industrie, qui est un journal de l'avant-guerre de 40, qui est incroyablement révolutionnaire, puisqu'il mélange les artistes de l'avant-garde avec les créateurs de voitures, etc., d'immeubles et d'usines. Donc c'est vraiment un travail de défrichage du nouveau monde en train de venir, qui est un pied de nez à ces bourgeois cossus dans des vieilles maisons du 17e avec des rideaux aux fenêtres. Lui, il casse tout. Il y a de la décoration moderne. Et il y a ce côté-là. Et il y a ce côté pied de nez méchant, très méchant, à tout ce qui est conformiste. Alors, c'est un bourgeois, mais il est anticonformiste, ce qui est une posture bourgeoise aussi.
Et donc, votre anticonformisme à vous ne relève pas de la posture?
Pas du tout. Moi, je ne suis pas anticonformiste. Moi, je me sauve d'un truc qui est en train de mourir, de ces deux familles, celle des Corons comme celle de la bourgeoisie picarde. Pour une raison que je découvrirai après coup, parce qu'on ne sait jamais pourquoi on s'enfuit, c'est le refus de transmettre. C'est une non-transmission. Or, si je crois que la bourgeoisie est gardienne de valeurs, c'est celle de transmettre. Transmettre de la culture, transmettre de la tenue, transmettre des valeurs spirituelles. Or, dans ma famille, à un moment donné, avec la rupture du charbon, de la ruine, de je ne sais quoi, de la non-éducation de certains d'entre ces enfants, on a cessé de transmettre. Au point que quand j'ai commencé à vouloir écrire Noces de charbon, je suis retournée sur les lieux de naissance, pour trouver des registres de mort de certains dont je n'avais pas. Et j'ai entraîné ma petite sœur. Ma petite sœur ne connaissait pas les lieux de naissance de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents. Elle ne connaissait rien. Rien n'a été transmis. Et là, c'est Bourdieu qui dit, quand on vous transmet rien, vous êtes décalé, vous êtes obligé de choisir un monde artistique. un monde à côté.
Vous dites de Nadine, c'est quelqu'un qui efface
tout
et le passé n'existe pas.
Absolument.
Parce que justement,
elle est
le
bâtarde.
Passé lui est à moitié caché.
Non, elle est bâtarde, elle le sait, voilà. Elle ne veut pas l'être, donc elle rompt avec ça.
Ça vient aussi certainement d'elle.
Je pense, en vous écoutant toutes les deux, à un texte qui m'a beaucoup impressionné et que je crois déjà avoir cité dans cette émission, un article du mathématicien Laurent Laforgue, paru dans la revue du MOS. Et il dit, courageusement, « Je voudrais prendre la défense d'une catégorie de personnes qui me paraît absolument indispensable à la transmission de la culture, à sa perpétuation et à sa floraison. Je veux parler des héritiers. » Et ça, c'est sa réponse à Bourdieu. Parce que Bourdieu dit, oui. Il fait l'éloge de la transmission et en même temps une critique des héritiers extrêmement virulente qui a eu un certain impact sur l'école et qui a peut-être aggravé la crise de la transmission. Mais c'est un autre problème. « Je veux parler des héritiers. Bien que je n'ai aucun lien personnel avec ce milieu, je regrette de plus en plus les familles bourgeoises à l'ancienne qui n'ignoraient pas que leurs privilèges impliquaient des devoirs et que l'un de ces devoirs les plus importants était d'honorer la culture et de la servir, de s'y adonner soi-même et de la transmettre à la génération suivante. Ce milieu a donné à la France un très grand nombre de ses écrivains, de ses penseurs et de ses savants, parmi lesquels, d'ailleurs, on trouve beaucoup de rebelles. Cette bourgeoisie cultivée s'oppose à la part toujours croissante et désormais très majoritaire de nouvelles élites, ou soi-disant telles, qui considèrent qu'elle n'a aucun devoir envers rien ni personne, qui se fait gloire de son ignorance et affiche sa vulgarité, qui s'imagine qu'elle est rebelle parce qu'elle ne s'occupe plus de transmettre quoi que ce soit et qu'elle méprise l'héritage des siècles et qui se croit supérieure à tout ce qui l'a précédé. Et donc vous, c'est cette élite-là
qui contre ces héritiers-là que je me suis enfui.
Contre ces héritiers ingrats,
oui.
Que vous êtes
contre l'ingratitude,
rebellé,
absolument.
Contre l'ingratitude. Oui, mais alors, Alice Fernet, je reviens à un autre moment très courageux, très culotté de votre livre, parce que il y a l'épisode de la guerre, certains des bourgeois entrent dans la résistance. Deux, je crois, ou trois d'entre eux même.
Il y en a un qui rejoint les alliés en Afrique du Nord, un qui rentre dans l'ORA, l'Organisation de la Résistance Armée, qui va travailler conjointement avec les FTP et l'armée secrète.
Mais deux d'entre eux, après la guerre, restent dans l'armée, si je me souviens bien, et ils font les guerres coloniales en Indochine et en Algérie. Et là encore, vous allez assez loin dans l'empathie. Et c'est pas que vous ayez une sympathie particulière pour le colonialisme. Vous comprenez les luttes d'émancipation, mais vous donnez à comprendre leurs motivations qui ne sont pas ignobles. Dites-en-nous
oui,
davantage.
Mais c'est très intéressant que vous disiez c'est courageux, parce que ça serait quand même terrible d'imaginer que l'interdit soit si fort aujourd'hui qu'on ne puisse même pas raconter l'histoire des gens qui ont été engagés dans ces conflits.
Quand vous avez dit c'est courageux, ouais. Je me suis dit, mon Dieu, le politiquement correct est arrivé jusque-là.
Ben, on en est, bien sûr, ouais, moi je le
terrible.
Vois effectivement avec beaucoup de
commentaires. Oui, je pense qu'il est arrivé jusque-là, parce que j'ai demandé le dossier de presse du livre d'Alice Fernet, elle a eu quelques articles, mais dans la presse la plus piquée de culture, justement, et de littérature, aucun. Ni Le Monde, ni Libération, ni évidemment Télérama, comme si on lui faisait payer ce...
Vérité historique.
Oui, et un certain rapport de bienveillance et de sympathie, avec une classe qui n'est plus dominante, mais qu'on n'a plus le droit de ne pas détester. Alors on pourrait dire...
Oui, c'est oui, exactement ça.
Parce que on pourrait dire, on ne fait pas de littérature avec des bons sentiments, et il y a beaucoup de bons sentiments dans votre livre. Mais en fait, le politiquement correct, dont vous parliez, Sophie Chauveau, ruisselle de bons sentiments. Et ces maîtres mots, c'est ouverture, métissage, diversité, et la bourgeoisie est le repoussoir de ces bons sentiments même. Cette classe, je le répète, ne domine plus, mais aucun sentiment de tendresse à son égard n'est autorisé par les bons sentiments qui règnent et qui ont de plus en plus d'emprise, sinon sur la littérature, du moins sur l'idée qu'on s'en fait et qu'on doit s'en faire. Et j'ai l'impression qu'avec ce livre, c'est pour ça que j'ai employé le terme de courageux, vous en payez le prix.
Moi, en tout cas, je voulais refaire, parce que je trouve que c'est quand même ça, écrire l'histoire, une histoire qu'on n'a pas vécue, d'une certaine façon, c'est la revivre. C'est-à-dire vraiment se demander extrêmement précisément, extrêmement concrètement, qu'est-ce que ça a été d'être envoyé sur un bateau à 12 000 km de la France pour un combat dont au départ on ne sait pas forcément ce qu'il est.
Mais qui n'était plus tellement pour eux le combat pour l'expansion, pour le maintien du colonialisme, mais contre l'expansion du communisme.
Exactement. Hein, c'est ça. Mais d'ailleurs, en écrivant le livre, je me suis constamment rendu compte de l'importance qu'a eu l'anticommunisme et d'une certaine manière, donc beaucoup de, mais même dans des attachements fascistes, ensuite effectivement en Indochine et même d'ailleurs en Algérie, ce qui était une grosse erreur, ensuite les historiens l'ont dit, puisque l'Algérie étant quand même une terre d'islam, ne pouvait pas s'ouvrir au communisme. Mais en tout cas, oui, on découvre ça, la puissance de la peur du communisme dans des choix, les déterminismes qu'elle a impliqués.
On a vu après avec la guerre du Vietnam.
Sophie Chauveau. Oui, alors, j'en viens à vous maintenant, Sophie Chauveau. Vous dites, j'ai pris mon envol et vous datez cet envol de 68, si j'ai bien compris.
Oui, j'ai 15
ans. Alors, qu'est-ce
qui
s'est passé pour vous à ce moment-là ?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est formidable de se rebeller contre ses parents, ce que je ne pouvais pas m'autoriser. Donc, je vois sur les murs de ma ville tous les mots de ma colère, et je vais donc épouser ma ville dans son côté Sorbonne-Art, manif, joie absolue quand même. C'est ce que je vis n'étant pas vraiment politisé à 15 ans, c'est une grande fête. Et donc je rejoins la fête, et rejoignant la fête, je me fais d'abord des amis, et surtout, je me politise. Ce qui me permet de retourner voir ma grand-mère en lui disant « on va fermer les mines » et paf, je prends une gifle parce qu'elle trouve que le charbon c'est formidable. Je vois l'autre qui va dire devant chez Renault avec sa Floride or métallisée et son vison ouvrier « je suis avec vous » et je lui dis « démarre, on va se faire lyncher ». Et c'est vraiment ça qui se passe, c'est-à-dire qu'elles sont tellement décalées avec l'histoire, moi je sais l'histoire à ce moment-là puisque j'en suis, crois-je. En tout cas, j'espère. Et donc je vois que ces femmes sont d'un autre temps, d'un autre monde, qu'elles sont brisées, donc il faut les quitter. Elles sont les censeurs de l'avenir que je rêve.
Oui, mais d'un autre côté, moi j'étais un peu plus vieux en 68, j'avais 19 ans je crois, et je me suis révolté aussi, moins tant peut-être contre mes parents, même si je pouvais bouillir ici ou un peu.
On n'a pas de mauvais parents.
Non, j'avais pas de mauvais parents, j'étais fils unique, donc il m'arrivait d'étouffer un peu, mais... je me révoltais contre le système, mais j'ai eu très vite aussi le sentiment de suivre le mouvement. C'est-à-dire que je crois que 68, et je ne sais pas si vous êtes d'accord l'une et l'autre avec moi, a été un moment aussi lyrique que mimétique. Sauf que c'était non plus l'imitation des ancêtres, mais l'imitation du simultané.
Oui.
C'est-à-dire on imitait... les siens, ceux de sa génération.
On s'imitait les uns les autres. On se reconnaissait, donc on s'imitait.
On s'imitait les uns les autres.
C'était une folle joie de se reconnaître.
Oui, mais ça avait quand même quelque chose d'un peu grégaire. C'était pas passé du conformisme et du mimétisme à la découverte de soi. C'est pour ça que c'est le mot d'envol qui me fait penser. C'était peut-être le passage d'un mimétisme à l'autre.
Oui, mais c'est rétroactif, ça, ce que vous dites.
Oui.
C'est-à-dire que effectivement, la grégarité, on ne l'a vu qu'après. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait nos choix et qu'on est resté soit des gauchistes, soit des écolos, soit des féministes, ce que je deviens à ce moment-là, moi aussi. Parce que on peut pas rester dans ce magma de la reconnaissance simultanée, comme vous dites. Mais à un moment donné, on trouve ces liens. Et réellement, moi, le féminisme, à ce moment-là, 2-3 ans plus tard, va devenir l'endroit où, contre ces grandes familles, je me bats pour l'avortement. Où, effectivement, c'est à cause de cet héritage, quand même, malgré tout, que je vais bifurquer dans ma révolte et l'organiser de façon intellectuelle.
Et comment les bourgeois ont-ils vécu, justement, cette deuxième moitié du XXe siècle ? Henri est, si j'ose dire, mort à temps. Il est mort en janvier 68, avant l'extériorisation de soi. Avant que le besoin d'être quelqu'un et de le montrer prenne le pas sur le sens de la vie privée, qui était quand même la valeur bourgeoise par excellence. Mais les autres ont vécu tout ça, et votre livre évoque 68, évoque même les événements plus récents, puisqu'il va jusqu'au 11 janvier. Alors, que s'est-il passé pour les bourgeois? Est-ce que quelque chose de l'harmonie familiale a été brisé ou non? Ou est-ce que la famille a tenu bon? Parce que c'était, il y avait quand même dans tout ça un conflit de génération extrêmement fort.
Oui, je crois que le mot-clé, c'est Annie ça, Fermé. C'est le mot génération. Mais comme la fratrie s'étale sur 20 années, en fait, il y a une différenciation qui se fait entre les plus jeunes et les plus âgés. Les plus âgés, je crois, ne parviennent pas à transformer en eux ce noyau dur de ce qui a été transmis quant à la tenue, effectivement. Et quand vous dites « j'abandonne mes grands-mères » parce qu'elles sont d'un autre temps, donc effectivement, elles ne sont pas concernées par cette révolution, cette transformation de l'être et de la manière d'être. Et donc, entre les 10 frères et sœurs, les plus jeunes vont réellement devenir modernes. Les plus anciens vont rester assez arc-boutés sur des principes, des manières de se tenir et des choses qu'ils n'acceptent pas. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir à jusqu'où va la capacité qu'on a de se transformer de soi-même, de s'adapter à la société qui change. Est-ce qu'on peut réellement tout changer en soi? Et ensuite, ça m'a fait penser qu'il y avait réellement deux types de personnes, ou plutôt de personnalités, en particulier dans une génération qu'on pourrait qualifier de vieille génération à un instant T. Entre les vieux, d'une certaine façon, il y a vraiment ceux qui, tout en continuant d'obéir aux principes qui ont régi leur vie depuis l'enfance, vont tolérer que les générations suivantes en soient dispensées, et puis au contraire ceux qui vont être ce qu'on appelle un peu les tyrans, les autoritaires, qui eux veulent continuer d'appliquer à tout le monde les principes qui s'appliquent à eux-mêmes.
Oui, mais justement, ces tyrans, ces autoritaires, etc., c'est-à-dire les frères aînés, je crois, hein, de cette Jules et Jean, est-ce que ceux-là, ils ont été désavoués par leurs enfants, par leurs neveux et nièces? Est-ce qu'il y a eu une bataille familiale? Parce que votre livre, en tout cas, n'emporte pas la trace.
Non, il n'y a pas de bataille. Je pense qu'effectivement, il y a une sorte d'acceptation d'une séparation des générations. Mais c'est une chose qui me frappe d'ailleurs, puisqu'on a parlé de la résistance, des guerres de mai 68. C'est une famille où effectivement, j'ai quand même vu le long règne du principe d'obéissance. Hein. Et en plus, c'est pas un hasard si c'est une famille où il y a beaucoup de militaires. Les gens aujourd'hui ont peine à imaginer ce que Élite Saint-Marc a appelé la tragédie de l'obéissance. Oui. Et ça a été, ils ont vécu ça de manière très très intense. Et malgré tout, il en est resté une manière d'être, en tout cas, d'accepter l'autre et pas de lui rentrer dans le chou.
Dans votre famille, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, Sophie Jouveau.
Je crois que l'absence de transmission fait qu'il n'y a plus rien. Et que devant cette tabula rasa, quand on ne transmet pas, on ne peut pas respecter les militaires, on ne peut rien respecter. Donc du coup, nous les petits, les enfants, on était obligés de s'inventer quelque chose à respecter. Et c'était forcément un pas de côté. Ça ne pouvait pas venir d'où l'on venait. C'est venu de la littérature, de la musique pour ma sœur, nous sommes passés ailleurs.
Alors, il y a un très beau développement dans votre livre, Alice Fernet, à propos d'Henri. Et je voulais savoir si ça peut valoir pour nous, aujourd'hui. Alors Henri, c'est vraiment tout ce qui nous est aux uns et aux autres, même si c'est votre famille le plus étranger, la droite catholique, Action française, etc. Mais il fait cette expérience de finir son existence dans un univers qui n'a plus rien de commun, ou presque, avec celui dans lequel elle avait commencé. Et une collection de première fois avait émaillé sa vie d'étonnement, d'émerveillement ou de dépit. Premier salon de l'auto, première diffusion radiophonique grâce à la Tour Eiffel, premier Tour de France, premier impôt sur le revenu, première émission officielle de télévision. Son enfance vit aussi changer le visage de Paris. Est-ce que, avec ce 21e siècle et sa technologie, c'est pas un peu la même chose pour nous?
Si, je suis persuadée qu'effectivement, on fait cette expérience, et même sur un mode assez accéléré.
D'ailleurs, en lisant ce paragraphe, et précisément celui que vous venez de lire, je me suis fait la réflexion que vous vouliez, vous, Alice, nous entraîner à penser aujourd'hui. Le bel ou moins bel aujourd'hui.
Oui, le livre est constamment un écho. C'est vrai que, regardant le passé, je n'arrêtais pas de penser au présent. Et toute la question, c'est dans quelle mesure les changements nous transformeront ou pas.
Bien, écoutez, Nous terminons donc sur cette interrogation. Merci Sophie Chauveau, merci Alice Fernet. Je rappelle le titre de vos livres. Alice Fernet, Les Bourgeois, un très beau roman que la presse aujourd'hui bien pensante a eu tout à fait le tort d'ignorer, et votre très beau roman aussi, Sophie Chauveau, s'intitule Noces de charbon. Il est disponible dans la collection Folio. Je voudrais aussi signaler de Sándor Márai, Les Confessions d'un bourgeois. C'est un livre des années 30, mais je le cite ici parce que Sándor Márai fait partie de ces écrivains qui n'avaient pas de compte à régler avec la bourgeoisie, un peu comme Thomas Mann, peut-être parce qu'ils voyaient monter les périls et parce que dans le fascisme naissant, il y avait une haine de la bourgeoisie. Et notamment, on peut lire dans Le Travailleur de d'Ernst Jünger des lignes absolument terribles sur la beauté de l'élémentaire contre lequel le bourgeois se calfeutre. Et au même moment où Sándor Márai écrivait ce livre, dans Régénération de la bienséance, Thomas Mann s'emportait contre cette déification de l'élémentaire, contre ce biocentrisme, contre cette dénonciation des pouvoirs corrupteurs de l'esprit. C'est pourquoi il assumait lui-même d'être un bourgeois. Je voudrais aussi signaler un livre que vous allez publier au mois de novembre, je crois, Sophie Chauveau, un roman biographique dont va paraître le premier volume aux éditions Télémaque, Picasso, Le regard du Minotaure. Et le second volume paraîtra en février 2018. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et écoutable à vie. La semaine prochaine, nous honorerons avec France Culture l'anniversaire d'octobre 17. Nous l'honorerons et nous le problématiserons aussi, si je puis me permettre. L'émission aura pour titre « Lénine et la Révolution ». Mes invités seront Dominique Collat et Jean-Jacques Marie. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Philippe Bredin, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.